Allez, on y va. Le monde d'après. On se projette. Voilà. Normalement, si on était un peu plus près dans le studio habituel, on serait pris la main. Mais bon, là, ça, moi, je suis un peu loin de vous. On se projette. On se dit que Trump est prêt à tout pour arrêter la guerre, soit avec un mauvais deal, soit avec une dernière offensive et un mauvais deal, parce que de toute façon, ça sera un mauvais deal. Projetons-nous, les amis, la guerre est finie. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, gros exercice, vous avez préparé, je suis sûr, pendant des semaines, vous n'avez pas dormi de la nuit, sur l'économie, sur l'inflation et les taux d'intérêt. Allez, on commence par vous, Jean-François. Qu'est-ce qui se passe sur l'économie dans le monde d'après?
Bah déjà, dans le monde d'après, on revient pas dans le monde d'avant, mais on arrête de considérer la guerre. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on...
On revient pas dans le monde d'avant?
Ben non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. La première chose qui va changer, je pense, radicalement, c'est quand même en termes géopolitiques. Hein. Ce truc-là fait que c'est la fin du multilatéralisme, c'est la fin d'essayer d'organiser le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale avec des règles. Là, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du si vous avez les moyens, vous prenez en... vous essayez de prendre quelque chose. C'est, voilà, c'est le début. L'Iran sera beaucoup plus fort après qu'avant, donc il va sans doute avoir une certaine mainmise sur le Détroit. Donc, si vous êtes les Chinois, vous allez regarder Malacca. Si vous êtes la Turquie, vous allez regarder le Bosphore, etc., etc. Donc, il va y avoir une espèce, je pense, de remodélisation du... en tout cas, un remise à plat de toute la géopolitique. Les États-Unis se retirent, c'est la fin de l'OTAN. On a plein de choses qui vont changer en termes géopolitiques. Donc, ce sera pas le monde d'avant de toute façon. Je crois quand même que si on regarde la première réaction, si jamais on avait demain un accord, s'il y a un accord, qu'est-ce qui se passe après? Quand même, on a des prix du pétrole qui arrêtent d'avoir cette prime et on revient très très vite dans les 80-70.
On va en parler tout à l'heure.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, on était avant tout ça dans un monde où il y avait trop de pétrole. On était avant tout ça dans un monde où il y avait trop de gaz. Je regardais avant de venir ici, hein, les stocks de gaz européens ou français, ils sont déjà à 40. On était à moins de 20 au début du conflit. Donc, on n'a aucun problème à reconstituer nos stocks de gaz, paradoxalement. C'est bien pour ça que les prix d'électricité ne remontent pas. Donc, on est bien dans un...
Ils ont même été négatifs. Exactement. Pendant la période
de canicule. Ils le sont de plus en plus grâce aux renouvelables, pas à cause, grâce aux renouvelables. Grâce on a des prix d'électricité de moins en moins chers. On pourra en reparler. Le problème, c'est qu'il faut gérer les équilibres de système. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on aurait un retour très fort des matières premières, évidemment, de l'urée, du sulfure, de l'aluminium, tout ce qui avait été...
Des engrais.
Voilà, des engrais, tout ce qui avait été mis là-dedans. Je crois que la première chose, déjà, on revient à des prix, et il y a donc une inflation qui serait un peu comme en 2022, elle descendrait aussi vite qu'elle est montée. Et donc, évidemment, on aurait un effet un petit peu sur les taux de ce point de vue-là. Donc, premier choc, je pense qu'il laisserait de revenir
un petit peu... Donc, un contre-choc pétrolier.
Un contre-choc pétrolier, quelque part, et puis après, je crois qu'il y a quand même des choses qui, le monde d'après, il n'est pas le monde d'avant, je le disais, il y a du géopolitique. Alors, donc, il y a de la défense, il y a de l'électrification. Il y a plein de choses qui vont arriver.
Alors, il y a un sujet, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui m'intéresse. Sur la partie, vous dites, commerce international, ça fait des années ou des mois qu'on répète, notamment avec l'arrivée de Trump, que c'est la fin du multilatéralisme. Est-ce que ça se voit dans les chiffres? Parce que moi, je regarde les chiffres des échanges et je n'ai pas vu de signe qu'il y avait cette sorte d'explosion du monde et que les échanges étaient en contraction.
Je crois que ce que montre l'Iran, finalement, c'est quand même que même une zone comme le Moyen-Orient est hyper importante pour les supply chains mondiales. Finalement, le Moyen-Orient, là, on parle d'une zone, c'est 2% du PIB mondial. C'est moins que la France dans le PIB mondial. Ouais. Donc, tout d'un coup, on a l'impression, quand on parle du Moyen-Orient et du Détroit d'Ormuz, que tout se passe là-bas, ouais. Que le monde entier dépend de l'aluminium, que le monde entier dépend des engrais phosphatés qui viennent de là. Bon, les engrais phosphatés, il y en a plein le Maroc. Hein. Ouais. Mais grosso modo, on a l'impression que cette zone, c'est vraiment le nœud gordien de la supply chain mondiale. Ce que ça montre quand même, c'est qu'on reste dans des chaînes de valeur quand même hyper intégrées. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable, oui. Là, un gros grain de sable, pour que ça s'arrête. Donc quand même, évidemment, pour répondre à votre question, ça montre...
Les échanges aujourd'hui, quand on regarde les échanges entre blocs dont on dit qu'ils sont opposés les uns à l'autre, on voit quand même que ça continue dans des proportions... Je veux dire, quand on regarde les chiffres des exportations chinoises, c'est juste affolant. On ne peut pas dire qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et qu'ils n'arrivent plus à pénétrer les autres marchés.
Je pense qu'encore une fois, c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est pas la fin de la mondialisation. Simplement, c'est qu'on va accélérer cette tendance à aller chercher de la résilience, à aller chercher de la production là où vous vendez. Le commerce mondial maritime cette année, il risque de monter de 2%. Il s'arrête pas, c'est pas une récession. On passe par d'autres canaux, mais là, on voit bien ce qui est en train de se passer avec le Kazakhstan. On est en train de chercher des routes alternatives.
On va y arriver parce qu'on y est arrivé, comme on est arrivé à surmonter le fait de plus être pour l'Allemagne, de plus être approvisionné par la Russie.
Et le canal de Suez, etc. On va trouver des alternatives, mais quand même, je pense que ça accélère une réorganisation du monde. En termes de grandes régions, encore plus si vous avez la première économie mondiale qui est en train de se dire, moi j'ai mon côté de l'hémisphère qui est à moi, le reste ne m'intéresse plus.
Le monde d'après, selon Valentine Hennoux, c'est quoi?
Alors moi, pour moi, la première question qu'on peut se poser, c'est le défi sur l'IA aujourd'hui. Hein. Parce que si on voit l'économie américaine, ce qui est amusant dans ce conflit, c'est qu'elle résiste extrêmement bien et elle est complètement portée sur l'IA. Si on regarde aujourd'hui la croissance américaine qu'on a eue au premier trimestre, l'investissement dans l'IA, ça contribue pour la moitié. Et ces investissements sont aujourd'hui portés par les grandes entreprises de la tech. C'est 700 milliards pour l'année 2026. Ces investissements, c'est en hausse de 70% par rapport à l'année dernière. Et en prévision, on est sur 1000 milliards l'année prochaine, donc plus 40%. Et si on regarde donc le deuxième pilier, on a ces investissements. Le deuxième pilier, c'est la consommation. Et la consommation, elle tient alors que
aux
même...
Aux États-Unis. Mais pas ailleurs.
Ouais, elle tient alors que même on a un ralentissement du revenu disponible, il y a un ralentissement sur croissance des salaires, et normalement on a un ralentissement de la consommation, et là ça tient. Pourquoi ? Parce qu'on a un effet richesse, parce qu'on a les marchés actions qui fonctionnent bien grâce à la tech.
C'est ça qui a compensé l'effet baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis ?
C'est ça qui a compensé en partie, oui, la baisse.
Et c'est pas les mêmes personnes, par contre ?
Non, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont les ménages aujourd'hui les plus riches qui tirent la consommation. Donc l'IA aujourd'hui aux États-Unis, c'est un enjeu stratégique. Et on voit qu'il y a aussi des investissements privés, mais il y a aussi un soutien public important. Et si on regarde les déficits aujourd'hui du gouvernement américain, on oscille aussi entre 5 et 6%. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quelle est l'étape suivante ? Est-ce que cette vague d'investissement qu'on a aujourd'hui sur les 5 grandes boîtes de la tech, est-ce que ça va être on va pouvoir générer de façon soutenable une vague de croissance pour l'économie américaine ? Et là, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait un élargissement de cette dynamique de CAPEX. Que ces investissements, ça ne soit plus seulement l'histoire de chaque entreprise, mais ça doit être l'histoire de l'ensemble des entreprises américaines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour avoir ça, c'est important, il faut avoir des taux plus bas. Et l'autre question qu'on va devoir aussi se poser rapidement avec l'IA, c'est une fois que cette richesse sera créée de façon soutenable, si on arrive dans cette configuration, comment est-ce qu'on se la partage ? Comment est-ce que les gains de productivité générés se partagent entre le capital et le travail ? Parce que c'est de la croissance sans emploi.
Alors vous êtes dans le monde d'après encore.
C'était la thématique de cette émission. Pour moi, aujourd'hui, on a une économie aux US qui est tirée par l'IA. Et aujourd'hui, si on regarde cette croissance, c'est pas soutenable. Pour que cette loi soit soutenable, il faut vraiment un élargissement de ces capex. Et pour moi, ce qui est important, c'est la condition à ça, c'est des taux plus bas, des taux courts.
Alors justement, pour vous, l'inflation dans le monde d'après, ça ressemble à quoi ? Jean-François nous dit le pétrole devrait baisser, il y aura moins de tensions sur les matières premières. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu d'inflation, qu'on a juste eu une hausse momentanée des prix et qu'il n'y aura pas d'inflation ?
L'inflation, si on regarde, on en parlera sur les prix du pétrole, pour moi, ça ne va pas être un sujet. Et surtout, l'inflation qui va être par le marché du travail, ce n'est pas un sujet.
Donc, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation dans le monde d'après ? C'est ça ma question.
Pour moi, le monde d'après, il n'y aura pas d'inflation, mais il y aura surtout aussi des banques centrales qui vont devoir baisser les taux courts.
D'accord, on va en revenir. Sébastien ?
Sur l'énergie, il faut quand même avoir en tête que notamment du fait de l'IA, on va chaque année entre maintenant et 2030 avoir besoin de l'équivalent de la consommation du Japon en plus.
C'est plus d'électricité.
Ah oui, c'est plus d'électricité.
Oui, mais on sait faire aujourd'hui l'électricité.
Tu sais pas faire de l'électricité comme ça quand tu as des data centers qui ont besoin de 1 gigawatt par an. C'est l'équivalent d'une centrale nucléaire.
On a des prix d'électricité qui sont négatifs.
C'est local. Le problème, c'est que tu dois raisonner au niveau local, pas au niveau global. Et tu vas avoir des besoins qui vont être extrêmement concentrés assez vite. Donc, un des sujets du monde d'après, ça va être la mise en musique de tout ça. Parce qu'on a eu 3 années où on parlait d'IA et c'est fondamental. Mais il faut bien voir aussi que depuis 18 mois, il n'y a pas eu d'accélération des résultats des entreprises. Les marchés américains, le S&P a beaucoup monté. Les estimations ont augmenté en masse à peu près 7% sur la période, mais c'est lié aux 55-60% des boîtes liées à l'IA ou au CAPEX d'IA. Or, ces activités-là, en fait, le S&P, les résultats ont baissé.
D'accord.
Donc, en fait, t'as une...
D'accord, mais quand on a un Nvidia qui tire, à la limite, on s'en fout qu'il y ait 100 boîtes qui...
D'accord, ok, très bien.
Parce que c'est des chiffres qui sont tellement spectaculaires
mais là,
que ça compense la baisse.
Si on parle de la partie boursière, ce qui est intéressant...
On en parlera tout à l'heure, peut-être.
Dans l'économie, c'est toujours une période, on appelle en mauvais français du FOMO, donc on a envie d'y être. Et à tous les prix. Et maintenant, on va rentrer dans la partie où il faudra comprendre et rentabiliser. Et pourquoi ça va arriver ? Parce que Anthropic, OpenAI, SpaceX vont rentrer en bourse. Donc, ça va être l'arrêt de la période du rêve. Il va falloir concrétiser. Et quand on s'intéresse vraiment à l'IA et qu'on commence à gratter un peu les choses, qu'est-ce qu'elles vous disent les entreprises ? Déjà, j'ai un peu peur de me lancer parce qu'en fait, je ne sais pas combien ça va me coûter. Parce que, en fait, utiliser l'IA, déjà, tu vas être pieds et mains liés avec un, avec un provider.
Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde?
Non, pas du tout. Parce que tu sais pas exactement combien, quand tu vas faire tes décisions, combien ça va te coûter? C'est-à-dire, combien va être le token? En réalité, c'est que pour l'instant, c'est subventionné par des boîtes qui, pour l'instant, n'est pas tout de suite de rentabilité. Le jour où elles sont en bourse, le prix des tokens va énormément augmenter, arrêtera d'être sponsorisé. Donc, les entreprises, en fait, par rapport à l'IA, il y a un vrai sujet. C'est que pour l'instant, il n'a pas véritablement été implanté. Et mettre copilote dans des boîtes, c'est pas faire de l'IA.
Déjà en faire un peu quand même.
Ouais, mais de la productivité.
Dis pas ça, je viens de mettre copilote dans.
Ouais, oui, mais ce que je veux dire,
c'est que j'ai dit qu'on était entré dans l'ère de l'IA.
Le véritable impact, tu l'auras quand les infrastructures des entreprises en termes de data seront faites. C'est pas encore fait. Donc en fait, on parle de plein de trucs. Mais ça n'arrivera que dans 2 ou 3 ans.
Stéphanie ?
Ok, cette diffusion.
Ouais. Stéphanie, juste pour revenir, économie, inflation, pour vous, votre vision, c'est quoi ? Vous dites, le monde d'après, il sera top ?
Si la guerre s'arrête,
oui. On peut espérer...
On part sur ce principe que les taux rebaissent, effectivement. Ouais. On en est loin, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de... 19 mai, on était à 3,19 sur le Bund allemand. Aujourd'hui, on est à 2,94, mais... quand on regarde les boîtes qui se financent à court terme, on est encore bien plus cher qu'il y a 9 mois.
Et on nous dit que la BCE va peut-être monter ses taux.
C'est 50 points de base de plus. LNA à 12 mois, c'est presque de 2,82 à 3,50. Donc la réalité pour les entreprises aujourd'hui, c'est que même si ça rebaisse, on est encore quand même bien plus cher qu'il y a un an. Donc il va falloir vraiment un retour de la confiance, une certitude qu'on va normaliser la situation. Et ça va sans doute contribuer à un regain de confiance de tous ces patrons qui, en fait, vont bien, mais sont juste prudents et attentistes. Et donc,
c'est ce que vous ressentez, vous, quand vous leur parlez?
Oui, on s'est dit, ça va être court, puis ça dure. Ouais. Donc là, tout d'un coup, en fait, que ce soit au niveau des patrons, au niveau de la consommation, on l'entend, les petits commerces, les gens, les clients qui ont des boutiques, disent, en fait, l'argent est là, mais en fait, les gens ont arrêté de dépenser.
Jean-François, juste pour revenir une seconde sur un de mes sujets favoris, mais vous êtes économiste, il y a des économistes à la BCE, on a tous l'impression que monter les taux, ça serait une erreur fondamentale. Pourquoi la Banque Centrale pourrait monter ses taux? J'ai du mal à comprendre, en fait.
Eh bien, moi aussi. Mais je pense qu'on va avoir droit à une espèce de dovish hike ou de
C'est quoi dovish?
C'est-à-dire que c'est une banque centrale qui va monter les taux pour faire croire qu'elle est méchante, en se disant à 2,25, je suis pas très loin de mon taux neutre, qui est entre 2 et 2,5 pour la banque
centrale. C'est symbolique, quoi.
C'est un peu symbolique.
C'est dire, je lutte contre l'inflation.
Voilà. Et puis surtout, j'essaie de casser les anticipations d'inflation. Il y a un espèce de gros traumatisme, de la banque centrale qui est lié à 2022, où on disait, mais en fait, c'est un choc d'énergie transitoire, et à la fin, ça s'est transféré à l'alimentation, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui aussi. On voit bien les prix des engrais, vous le disiez. C'est 30% des engrais mondiaux qui sortent de la région. Et donc, évidemment, ça se transfère au prix. Et donc, la BCE veut absolument casser cette histoire-là. Moi, je suis absolument persuadé que ça ne changera rien du tout.
C'est pas ça qui va ouvrir le détroit d'Hormuz.
Exactement. Donc, à la fin, ça ne sert à rien. C'est un geste symbolique. Ce qui me semble très intéressant, c'est quand même cette espèce de schizophrénie entre les marchés qui achètent que les États-Unis, qui sont à 3,8% d'inflation, serait à deux doigts de baisser les taux, et que la BCE, qui est à 2,8%,
oui, parce que c'est politique aux États-Unis,
il faut qu'elle monte les taux 3 fois, quoi. Donc on est quand même une espèce de dichotomie. Si c'est vraiment le cas, il faut mettre l'euro-dollar à 25, quoi. Donc attention, je trouve qu'il y a des problèmes de cohérence.